avec Leïla Kadoumidali, Morgane Dorignan, Fanny Ruet, Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure, Daniel Morin et notre invité Mathieu Amalric.
Oh là 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 là.
Le vrai Mathieu Amalric sera là pour nous parler du nouveau film des frères Larrieux. On dit toujours les frères Larrieux, on dit jamais les prénoms, Arnaud et Jean-Marie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on dit toujours les bah, frères.
On dit les frères, ouais. On dit... C'est contractuel.
C'est... Ah, d'accord. Ouais. Si je dis Arnaud et Jean-Marie, j'ai l'impression. Donc, Arnaud et Jean-Marie Larrieux réalisent ce film Tralala, une comédie musicale. Nous allons donc jouer.
Oula.
Oh non, oh, non, non.
Attends, les récentes ou les modernes?
Ah, voilà.
On va jouer. On va jouer, c'est tout.
Daniel.
Morgan.
Daniel. Starmania.
Ouais.
J'aurais voulu. Être un martyr.
Oh, faut bien aller en laisser un.
Ça, j'avais pas du tout là.
Ouais,
c'est vrai, elle commence comme ça.
Le début, non. Bah, moi, j'étais sur full sentimental là, donc j'aurais pu
c'est
dire
vrai,
Raphaël ou un truc comme ça.
J'ai du succès dans mes affaires.
C'est fou. Ouais, bon,
c'est
fou.
C'est dingue.
Très peu chanté dans un karaoké.
Très peu massacré.
Pourquoi, je sais pas pourquoi elle ignorait cette chanson.
Chantée par Bernard Tapie.
C'est vrai.
C'est vrai, ouais.
T'as raison.
Qui chante?
Morgane. Emmanuel Moir.
Tu es mon
mais oui, c'est l'essentiel, évidemment.
Bah, évidemment.
C'est quoi le évidemment?
Quel est l'essentiel?
Je sais pas. Je fais de toi. Ah, une adolescence bien solitaire.
Adolescence. C'était quoi la comédie musicale déjà?
Le Roi Soleil.
Le Roi Soleil.
Ah ouais, mais ça, moi j'ai
mais non
ça. Mais bien sûr que si, là.
Ah, c'est ça.
Ah, c'est ça.
Mais c'est ça, oui, c'est ça.
On n'a pas beaucoup d'expertise,
avait,
mais là.
Christophe
oui. Qui faisait le frère, je crois, le duc d'Orléans.
Moi, j'étais en vacances à cette époque-là. Je
pour l'instant, mais c'est un énorme succès.
Mais je sais, mais j'ai loupé ça.
Bon, okay,
hein. Non.
Pourquoi?
Qui chante?
Morgane.
Leïla.
Envie d'aimer.
Les 10 commandements.
Ce sera nous demain.
La chanson de la procrastination.
Ce sera nous le chemin. Se donner, nous donne l'envie d'aimer.
C'est incroyable que ça fasse des succès quand même. Non?
C'est-à-dire que je pense que ça fait plus de succès avec le souvenir, la madeleine que ça évoque là maintenant, le retour, tu vois, que sur le moment même. Ça a été un gros,
c'est
gros
un carton, quand
énorme
même.
Carton, énorme.
Morgane, mais quoi tu
mais évidemment.
Et est-ce qu'on peut sortir de ces comédies musicales d'enfants de 15 ans?
Mais tu permets?
Ouais, ouais, ouais.
Bah non.
Là tu craches à la gueule d'une génération.
Bah exactement.
Moi c'était mes chanteurs préférés.
Bah oui c'est ça.
Et regarde Damien Sarg.
J'ai fini. J'ai fini.
Voilà. Bah voilà. J'ai pas osé.
On se fout pas.
Ma mère elle va te chanter.
De la morale.
Oh waouh. Je la connais vraiment très fort.
Jérémy Crédville dans ses mauvais jours.
À toi.
Les chiens et les loups.
Les loups.
Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour.
Est-ce qu'on peut changer?
Elle connaît, elle connaît vraiment.
Bah oui,
elle connaît
bah
vraiment.
Ouais. C'est son drame.
Écoute, toi c'est Dalida, elle c'est Damien Sarg. Ça va quoi, chacun son créneau.
C'est clair.
Il y a... Oh, ça va être très facile.
Leïla.
Ouais.
Cathédrale Notre-Dame, belle. Esmeralda, belle.
Mais laisse-la dire.
Mais je fais toute la liste. Je fais du pyramide.
La
Non, mais je savais pas. Je voulais pas.
Déjà, t'as fait du
Je savais pas si tu voulais le nom de la comédie musicale ou du titre.
Ah non, non.
Mais c'est quoi le nom de la comédie musicale?
Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame.
Et celui qui lui jettera le premier.
On a pas fait mieux, hein.
Ah bon?
Non, mais en toute chanson
confondue. Oh Lucifer, on laisse
rien qu'une
fois. Mais quoi?
Il s'est
mes doigts dans les cheveux.
Non, Esmeralda. Non, ça
après. Elle dansait avec ses petits poils.
Attention.
Morgane?
Non, non.
Ça ne dérange pas.
Non, Leïla, Podane.
C'est le cake.
Le cake d'amour.
Ah oui.
Là, j'aurais dit qu'on ne pas l'avoir.
Podane. C'est le nom d'une ex.
Attends,
alors, je laisse.
Autour d'un pull creusé, choisissez quatre.
Je sais pas, je pense que. Non, c'est un cake.
du matin frais.
La comédie.
Hey, yeah. Attention, 3 points pour Morgane, 2 pour Leïla, 1 pour Daniel. Qui chante, et c'est le super banco, qui chante ou donnez-moi la comédie musicale.
Leïla, c'est pas Cabrel Daniel. Qui chante.
Daniel.
Si, mais on veut la comédie musicale.
C'est toi qui l'as dit.
Non, elle a pas dit la comédie musicale.
J'ai dit Cabrel.
J'ai
dit Soldat Rose.
Il a dit la comédie musicale.
Il a dit le chanteur, ou,
la comédie musicale.
Non, il a dit la comédie musicale.
Mais pas attentif.
N'est pas attentif.
Même Daniel est avec moi pour une fois.
Ah, me dégoûte.
Clac, clac.
Comment tu vas casser.
Par s'échapper.
Victoire de Daniel Morin.
Non.
C'est lui qui a dit Soldat Rose.
Allez, allez. Et ben pas.
Merci d'accueillir.
Il a dit le chanteur ou la comédie musicale. La consigne. Mais merci.
Mais Mathieu,
oui.
Vous êtes venu avec des copies?
Non, pas du tout.
Mais
pas
si,
du tout.
Un dossier tout prêt.
Non, c'est le c'est les paroles des chansons parce que voilà, on oublie, vous savez.
One came bébé. From the darkness it was seen.
Vous êtes fan de Springsteen?
Là, je me suis pris plus pour Johnny Cash.
Ah, ok, d'accord. Ok, c'est Country ça. Boy.
Surtout, ne soyez pas vous-même.
Tralala, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un chanteur dans la rue.
Un vagabond.
Une demoiselle. Oui, on ne sait pas trop d'ailleurs. Est-ce qu'il n'est pas vraiment SDF?
Non.
Il a son chez lui.
Non,
mais
pas loin, il n'est pas loin.
Il a eu son heure de gloire, peut-être.
Sa maison va être détruite. Ça, il le sait. L'immeuble va être détruit. D'ailleurs, il discute avec les ouvriers qui s'apprêtent à raser le quartier.
C'est copain, même.
Il fait du chapeau, il fait de la terrasse, il fait du trottoir, il chante avec sa guitare, son petit ampli portatif. Et puis une demoiselle
apparaît telle une épiphanie
devant la gare Montparnasse,
ravissante, jouée par
Galatea Bellucci.
Merci Galatea, je voulais pas esquinter son prénom. et là elle vous dit ne soyez pas vous-même, et ça c'est le plus beau conseil qu'on puisse donner à un artiste finalement.
Oui, sauf que là il venait juste de le dire, est-ce que je peux vous embrasser? Et la fille lui répond, surtout ne soyez pas vous-même. C'est plus ambigu.
Plus tordu.
Et elle disparaît. Mais elle laisse un briquet.
En laissant un briquet à l'effigie de Lourdes. Et là, vous partez à sa rencontre. Et là, ça reste une comédie musicale, mais c'est plutôt le retour de Martin Guerre. C'est-à-dire que vous redébarquez de l'au-delà au milieu de plein de gens qui vous reconnaissent. Oui, c'est ça. Il y a un flottement.
Ou pas, on ne sait pas. Il est entraîné à Lourdes pour retrouver cette belle jeune fille qui vient de faire son apparition.
Qu'il prend pour la Sainte Vierge.
Qu'il prend pour la Vierge, clairement. Donc il la voit partout, finalement, à Lourdes, sans vraiment la retrouver dans un premier temps. Mais qui est-il, vraiment?
C'est ça. On a appris par ces bribes de chansons au tout début à Paris. Parce qu'il n'a pas encore trouvé ses chansons. Mmh. Même il n'a pas tout à fait trouvé sa voix. Il est dans une tessiture très haute. Ouais. Comme ça. Et qu'il est orphelin, visiblement. Et il suit cette fille, mais oui, il se réveille un matin dans un hôtel désaffecté où il a pu dormir. Et une femme le réveille. Il lui dit,
Pat.
Mon fils, tu es revenu. Et c'est Josiane Balasco qui chante du Dominique A. Et je prends. Maman, pourquoi pas? Allons-y. C'est pas Martha Guerre dans le sens où il n'y a pas d'imposture pour se faire du fric ou pas.
Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il retrouve une famille, il retrouve une femme.
Il
retrouve un enfant. Enfin, bon, il retrouve. Et il revient d'entre les morts.
Ne reviens pas d'entre les morts. Qui es-tu?
Alors, les musiques, les chansons, là, c'est Bertrand Belin, mais qui est plus acteur que chanteur. Il interprète ses propres chansons dans son rôle. Sinon, c'est Philippe Catherine qui a fait tout le boulot, j'ai l'impression.
Non, ça dépend. Chaque personnage a son compositeur.
Et vous, c'est Philippe Catherine?
Moi, c'est Philippe Catherine au début, jusqu'à ce que je rencontre Seb, donc mon soi-disant frères. Et à partir de là, je chante des chansons de Belin. Et je trouve ma voix grave.
Il y a aussi Dominica, Etienne
Dominica
Dao.
A écrit pour Josiane Balasco, Jeanne Chéral et Kerenan pour Mélanie Thierry, Maïwenn c'est Etienne Dao. Vous voyez, chacun, on est bien servi. Quoi.
Ah, ouais.
Et des chansons originales pour le film.
Et Saint pour les deux.
Et Saint, les deux jeunes. Ouais. Oui, oui. Voilà.
Mélanie Thierry, dire qu'elle est formidable dans un film, c'est une évidence.
Elle est
quelle actrice.
Oh oui, quelle actrice. Et quelle belle personne. Quel complice.
Et là, elle nous fait des chorégraphies en plus.
Mais vous rendez compte, ce moment-là, oui, c'est ça, c'est après l'amour. Elle prend un drap et elle me fait une danse du voile en contre-jour à la fenêtre. C'est sublime sur cette chanson de Kerenan.
Alors,
les cadeaux.
Ce film, Tralala, comment vous l'avez découvert quand les frères Larieux vous racontent, vous disent, on va faire une comédie musicale? Quelle est votre réaction?
Oh, ils m'en parlaient depuis longtemps, parce que ça a été inspiré par Philippe Catherine. Ils imaginaient que c'était Philippe Catherine qui allait jouer.
D'accord.
Et puis, Philippe a senti cette chose, surtout ne soyez pas vous-même, mais bien longtemps, peut-être un an et demi avant le tournage, vous voyez. Il sentait que peut-être il pourrait pas être quelqu'un d'autre que lui-même. Donc il a pas eu envie. Et ils sont passés par des jeunes d'abord. Ils ont imaginé des jeunes. Et puis ils ont appelé leurs vieux potes.
Pourquoi vous faites du mal? Ils ont d'abord pensé à des jeunes.
Oui.
Puis ils ont pensé à moi.
Oui, oui. Non, et puis, moi je suis arrivé, franchement, 5 semaines avant le tournage.
Ah oui.
Et les chansons de Philippe Catherine n'étaient pas encore écrites pour mon personnage. Donc, grâce à Philippe Evenou, le complice de Catherine, on est parti. Moi, j'ai juste récupéré une guitare électrique.
Excuse-moi,
guitare électrique.
Ça sent, il y a eu un clash avec Philippe Catherine.
Mais non.
Pourquoi il n'a pas continué de bosser sur ses chansons?
Ah si, il a écrit les chansons, mais il a été inspiré, comme ça, au dernier moment. Il nous a envoyé des chansons, c'était miraculeux.
D'accord.
Par iPhone, en une nuit.
Un quart d'heure avant le tournage.
Non, non. 10-12 jours, pour le personnage de Tralala.
Très bien. Tralala, donc le nouveau film des frères Larieux, avec Mathieu Amalric. Alors il y a toujours un piège, pardon, hein, quand on vous voit sur une affiche, Mathieu, on se dit c'est un film de Mathieu Amalric.
Oui.
Oui. Ah bon?
Ouais, on a peur.
Non.
C'est-à-dire qu'il y en a eu un il y a un mois, oui, c'est vrai. C'est
non, mais on attend du Mathieu. Alors, quand Mathieu Amalric est dirigé.
Il est
dirigé, voilà, c'est ça. C'est chic d'être dirigé par les frères Larieux?
Ça fait 20 ans maintenant. Il me constitue.
Non, mais j'entends, mais
c'est,
je veux dire, c'est le label, ouais, voilà, c'est ça. C'est chic?
Ouais.
Ah, j'ai pas pensé à ce mot. C'est surtout extrêmement gourmand. La vie devient
plus facile.
Ouais,
quoi,
ouais,
magique.
Ouais, ouais.
D'accord. Alors nous sommes ravis que vous soyez là, évidemment.
Mais
ce n'est pas le cas de tout le monde. Voici. Qu'est-ce que tu
fais?
Tu te mouches. Tu te mouches avec ton papier.
Attention,
Morgane Cadignan. Morgane ne vous aime pas,
Du tout. Mathieu Amalric, je vous aime pas. Enfin, si, à la base, avant, je vous aimais bien. Mais depuis votre rôle de Gigia dans le Bureau des légendes, vous me faites flipper. Franchement, là, je le regarde, j'ai peur d'être virée alors que je bosse même pas pour vous, quoi. Mais ça va, je vous trouve de nouveau sympa depuis ce film. Il m'a fait du bien, moi, ce film. Tralala, un film des frères Larieux. Pour une fois qu'il y a des frères en France qui font des trucs un peu joyeux. Parce qu'entre les Dardennes et les Kouachi, c'est vrai que ça chantait pas beaucoup. C'est l'histoire.
Non.
Ça va aller mieux après.
Non.
Là, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Tralala. Bah, écoutez, pourquoi pas. C'est vrai que La La Land, ça a été un prénom beaucoup donné en 2016 déjà. Dans ce film, vous incarnez un musicien des rues paumé qui se retrouve plus ou moins malgré lui à usurper l'identité de quelqu'un qui a disparu au point de se faire une place dans une famille qui, au final, n'est pas la sienne, mais ça arrange bien tout le monde. Mais c'est d'un banal, Mathieu. Franchement, mes parents, moi, par exemple, quand la petite Morgane originelle a disparu en 95, ils étaient bien contents de la remplacer par moi. Non, mais regardez ma tête, s'il vous plaît, les amis. Personne n'y croit, cette histoire de Guadeloupe. Hein. Enfin, je veux dire, évidemment que je m'appelais Leïla, moi, à la place.
Oui.
Puis j'ai vu les photos de la petite Morgane de 90, ça laisse très peu de doute que la fille s'est devenue Zendaya, de rien ma sœur. Mais au-delà de l'usurpation du personnage de Pat, ce film, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que croire ça fait du bien et qu'au fond, parfois, on s'en fout un petit peu de savoir si c'est vrai. Les gens qui croient en Dieu, ils ont aucune preuve que c'est vrai. Ok, il y a la Sainte Vierge qui est apparue 3 fois dans des tartes aux couettes à l'époque, mais sinon, tout est basé sur la foi. Alors c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est la petite Morgane du début qui est allée au catéchisme. Moi, à l'époque, je vendais faisait des fausses clubs dans la Casbah d'Alger, donc j'ai pas suivi. Moi, je suis pas trop croyante, mais j'ai un profond respect pour les croyants, parce que c'est quand même une vie de dévotion pour un truc dont t'auras la preuve qu'au moment de ta mort, pour une religion qui interdit le jeu. Je trouve que c'est quand même un sacré pari. Moi, je vois ma grand-mère, et que ça se lève à 5h pour aller à la messe, et que ça s'endort sur ses chapelets pour au final te dire que la présence de Jésus, elle la ressent dans son cœur. On n'est pas sur un retour sur investissement incroyable, hein. Pardon, mais c'est pas le bitcoin l'histoire. Après, elle la ressent dans son cœur, tant mieux. Si ça se trouve, c'est peut-être un début d'infarctus et nous, on est tous là et on lui offre des petites bites de toutes les couleurs au lieu d'appeler le SAMU. Mais au moins, elle croit en quelque chose et c'est chouette. Elle croit en Dieu. Dans le film Josiane Balasco, elle croit dans le retour de son fils. Vous, Mathieu, vous avez foi dans le fait que cette chronique va peut-être s'arrêter un jour. S'il y a des gens qui croient au pouvoir des pierres, on peut bien croire un peu, nous aussi. Ça nous coûte rien. Quand j'allais mal, j'ai une amie qui a mis une améthyste dans ma poche. Mmh. Est-ce que ça allait mieux après? Bien sûr que non. J'avais juste un manteau qui pesait une tonne. Mais elle croit qu'elle m'a aidée. Alors que pour vraiment aller mieux, peut-être qu'il aurait fallu mettre Mathieu Amalric dans ma poche. Mais là, vous imaginez la taille de la doudoune, c'est pas possible. Bon, Mathieu, ce qu'on fait, j'arrête. Vous faites la promo du film, puis moi je vais faire une sieste dans votre manteau, là, parce que tout ce positivisme, ça m'a éreinté.
Merci, mon gars.
Et Morgane, on se retrouve du jeudi au samedi au Métropole à Paris, en tournée dans toute la France.
Mais c'est vrai.
Mais oui,
et oui.
Ah. Électron libre.
Oui, il n'était pas calé là où je pensais.
Titre.
Seul.
Je me sens abandonné.
Je me prends dans les bras, abandonné, sans destinée.
Comment interpréter une comédie musicale qui est un nouveau genre en plus pour les frères Larieux, puisqu'ils ont, été plutôt dans les drames, les thrillers, comédie peut-être, mais pas comédie musicale. C'est la première fois.
Il y a toujours des moments où on se met à chanter. Regardez dans Un homme à vrai.
Pas intégralement, là, c'est.
Pas intégralement, ouais. Mais dans Un homme à vrai, ouais. Philippe, Catherine étaient déjà là. Et on chantait même tout nu avec Hélène Filière en direct avec Philippe,
ça, ma question.
Planqué derrière un paravent avec sa guitare. En son direct. Non.
Est-ce que là, ça a été le cas, justement, pour l'interprétation?
On a d'abord, comme il y a eu très peu de préparation, on s'est d'abord blindé par des playbacks. Mmh. On a d'abord découvert les chansons avec Renaud Létang, l'extraordinaire producteur et arrangeur. On a d'abord tout enregistré en playback. Et puis, avec leur cousin Lourdet, ingénieur du son, Olivier Mauvezin, extraordinaire, il a créé un dispositif qui nous permettait, par une oreillette où on avait juste la musique, okay, de pouvoir enregistrer la voix directe pure.
D'accord.
Et finalement,
en situation,
pratiquement pour tout le monde, c'est le son direct. C'est comme si, en fait, les sons de la ville, les bruits, etc., cette nature de son.
C'est parti du mixage.
Voilà, comme on chante, c'est le même son.
Vous avez aimé la définition du film par Morgane?
Ah oui, oui, sur la croyance. Oui. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est le besoin de croire. Et c'est quoi une identité aussi? Il y en a marre, non? Des fois, de voir se définir par une identité, c'est une grande, grande maladie, là, qui commence à nous scléroser.
Bah, en tout
et
cas,
là,
la force.
C'est pas par les liens
la
du
force
sang,
d'un
c'est
acteur.
Par des. On s'invente sa famille. Ouais. On s'invente sa famille.
Comme un acteur s'invente des vies.
Et après, il y a ça. Il y a toute la métaphore du jeu. Oui.
Et puis il y a aussi cette figure du sorte de clochard un peu céleste,
ah,
qui sent aussi les choses, qui sent une forme de vérité dont il n'a pas conscience, mais qui la joue sans la jouer en fait. Il est capable de mettre le bon disque au bon moment.
Oui.
Il se dit tiens, faut que je trouve le bon disque, mais il est inspiré, comme s'il était inspiré en fait.
Totalement.
Ouais.
C'est ça. C'est pour ça, moi, je me prenais pour Jésus-Christ.
Ça vous voit bien.
C'était ouais. Délicieux. Un Jésus-Christ, Bernard Lermite. Vous voyez,
c'est ça, oui, qui rentre dans la coquille d'un autre, quoi.
Bah,
c'est
ouais.
Ça. Bah, oui, c'est exact.
Alors que je chantais devant la gare Montparnasse, elle m'est apparue, vive comme un train. Je l'ai reconnue au milieu des mendiants, le pas flottant, la Sainte Vierge, juste devant moi, qui me tendait les mains.
Alors, il y a des duos également, vous et cette apparition.
Je suis sexy.
Ambiance.
Ah oui, avec des chorégraphies de Mathilde Monnier.
Des boules à facettes.
Ah oui.
Les Bee Gees ont intérêt à bien se tenir.
On a passé 6 jours dans une boîte de nuit qui s'appelait Le Paradis.
Ça, c'est pas tous les jours qu'on passe 6 jours dans une boîte.
Et on savait même plus s'il faisait jour ou nuit. Voilà.
Et puis alors les chansons, je le rappelle, chacun finalement a son auteur-compositeur. Ouais. Évidemment Bertrand Belin s'est servi. Petit côté Bachung dans cette interprétation de Clint Eastwood. Et Mélanie Thierry.
Chanson de Jeanne Chéral.
Soit l'homme qui m'a fait jouir 3 fois.
Mais voilà, tu vois, tout est possible, quoi.
Vraiment,
n'en jetez plus, quoi.
C'est de la magie.
On n'a pas parlé, de votre épouse, Maïwenn.
T'es une vraie beauté, une fille de.
Ma maîtresse.
Ouais.
Barbara. Maïwenn, chanson d'Étienne Dao. Et mais les chansons aussi, vous voyez, prennent en charge le récit.
Ouais.
On apprend des choses, ça avance.
On avance, oui.
Il y a un film de Lelouch, la chanson là, de Maïwenn.
Ouais.
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 Et puis il y a cette chambre 617. Là. Où tout s'est passé.
Et ça, c'est le travail de Renaud Létang et de son fils. Voilà.
Ça s'appelle Tralala, c'est le nouveau Larieux avec ce casting porté ici, enfin raconté ici par Mathieu Amalric. J'ai le casting, tu m'as vu troubler à un moment donné parce que je suis parti sur le disque et là je me suis dit c'est mal barré parce que en fait il y a plusieurs chansons de Mathieu Amalric, donc le casting, je vais revenir: Josiane Balasco, Mélanie Thierry, Maïwenn, Bertrand Belin, Denis Lavant que on n'a pas encore cité, pardon, et Galatea Belloudi. Moi c'est la première fois que je la voix.
Non, elle actrice. A déjà joué dans un film, j'ai oublié lequel c'est. C'est une enfant de la balle aussi. Son père est dans le film, c'est lui qui joue le prêtre, Duccio. Et c'est un acteur de Mouchkine,
et qui chante
du théâtre
également.
Du Soleil depuis toujours.
D'accord.
Ouais.
Tralala, ça sort aujourd'hui au cinéma. Et voici Fanny Ruet.
Oh là là. Coucou les touchous. Alors, on a Mathieu Amalric avec nous aujourd'hui, donc je me suis dit on va parler James Bond, vu qu'il y a le dernier qui sort. Alors je ne l'ai pas encore vu moi, mais là pour me remettre un peu dans l'ambiance, je regarde les 4 précédents. Et j'aime beaucoup, mais j'ai l'espoir qu'un jour il y ait un film de la saga où James Bond est réaliste, où on le met vraiment dans la vraie vie. Genre comme gadget, il aurait un chargeur iPhone, un dafalgan et 50 centimes pour quand les toilettes sont payantes. Et puis il aurait aussi une petite bouteille d'eau quand il a grand soif. Ça vous aurait bien servi, Dominique. Voilà, j'ai regardé Quantumir. La vraie vie, quoi. La vraie vie, en vrai, il passerait de Casino Royale où il peut sauver le monde à Casino tout court où il cherche juste des mandarines qui goûtent pas le cul. Parce que en vrai, c'est facile de tout résoudre quand t'as des millions à claquer, mais sauve le monde avec un SMIC. Là, tu m'impressionnes. Fais une course-poursuite en bus une fois. Avec la RATP, il n'y a pas que mourir qui peut attendre. Hein. Donc, fini les voyages de luxe, les avions en première classe et tout. On le met dans une classe éco avec tous les gens qui se lèvent dès qu'on atterrit alors qu'on sait qu'il reste encore 15 minutes à attendre. Et si vraiment il veut une voiture, petite Punto, tranquille. Immatriculé BG007, sauf qu'elle crache dès qu'il monte à 130, donc fini les cascades. Et s'il conduit comme un sacripant, il fera un stage pour récupérer ses points, comme tout le monde. Ou bien il ira à pied. D'ailleurs, ce serait pas mal que James Bond il ait une condition physique normale. Bon, les films seraient plus courts par contre. Hein. Ce serait genre course-poursuite, claquage, fin. Voilà. Mais c'est ce qui arrive quand on s'entraîne pas, quand on s'échauffe pas et tout, parce que déjà, essaye de courir en costard. Genre sérieux, c'est quoi? Mais un jogging, frère. Petit Serge Tacchini, tu connais, machin. Toutes les James Bond girls, du coup, elle s'appellerait Kimberley. Elle lui offrirait des jantes chromées pour sa Punto. Et le MI6, il deviendrait le MICC, comme l'impératrice. Dans ma version réaliste, James Bond, il aurait aussi une résistance à l'alcool qui est normale. Genre après 3 martinis, il pisserait dans la boîte aux lettres du MI6 et à la fin de la soirée, il dirait au méchant: mais tu sais, au fond, je t'aime, c'est juste que j'en vis ta liberté. Il recevrait des ordres de M, mais ce serait juste Mathieu Chédid. Il dirait genre: où est-ce que je peux me débarrasser du corps? La scène. Donc réhabilitons la normalité.
En comédie musicale, donc. D'accord.
Donc réhabilitons la normalité dans les films d'agents secrets. Moi, je veux voir James Bond qui tente d'obtenir un titre de séjour à la préfecture de Boussigny-sur-Roc. Moi, je veux le voir essayer de faire couler un bain qui n'a ni trop chaud ni trop froid, ou plus dur encore, d'avoir de la 4G dans Lyon, ou d'y élever un enfant qui reste en vie. Allez sorti en 2024.
Merci. Ah oui, musique.
Et Fanny, on se retrouve tous les mardis et mercredis à Paris, à la Scala, et en tournée, toi aussi, partout en France. Aller, hein.
Mathieu Amalric était un méchant de James Bond.
On va d'ailleurs en parler, on va en parler dans la bande originale dans quelques instants. Et tout à l'heure, nous recevrons Laurent Vallier, un producteur à France Musique, qui anime 42e rue tous les dimanches à 13h, consacré à la comédie musicale. Et bien justement, la musique dans la vie de Mathieu, on va commencer en 97. Vous écoutiez Mathieu Amalric. Du Bach.
Gould. Ben oui, parce que j'écrivais Mange ta soupe et je cherchais comment faire un truc qui soit pas autobiographique alors que je tournais chez ma mère, enfin tout est autobiographique. Et c'est cette musique-là, le fait qu'on ait l'impression qu'il pique, qu'il regarde de loin comme un entomologiste, vous voyez.
Donc
et
ça m'a donné la distance. C'est plus sa version de Glenn Gould que Bach.
C'est ça, c'est ce piqué là. Et du coup, t'as l'impression de, oui, c'est ça, de faire la collection de papillons, donc ça me concerne pas. Je suis loin et ça me permettait de savoir où mettre la caméra, de trouver le ton. Voilà. C'est un fou. Peu ironique.
Ouais.
Tac. C'est pas moi, c'est pas ma famille. Et c'est pas mes douleurs.
Et le montage aussi? C'est-à-dire que ce côté presque.
C'était pour l'écriture. Non, c'était pour l'écriture. Se débarrasser de la chialerie de l'autobiographie.
D'accord. Là.
On est en 97, Mathieu, vous recevez le César du meilleur espoir masculin pour « Comment je me suis disputé ».
Oui.
Et puis vous réalisez aussi votre premier long métrage,
«
Mange ta soupe ». Vous racontez que cette idée vous est venue à la séparation de vos parents, voyant votre mère qui mettait à la place de votre père une pile de livres.
Vous savez des choses. Maman, bonjour.
J'aime bien, il regarde
l'heure. C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est moi qui l'ai dit.
Les journalistes.
Voilà.
Vous regardez l'heure pour savoir si elle écoute.
Non mais c'est vrai.
C'est-à-dire, je me souviens d'un truc dans un Woody Allen qui est génial, dans Crime et délit. À un moment, la définition, c'est « Comedy is tragedy plus time ». La comédie, c'est de la tragédie et du temps qui est passé.
Mm.
Donc, c'est horrible ce que vous avez raconté, c'est vrai. Mais du coup, tu te dis, mais ça peut être drôle.
Ouais.
En fait, ma mère a remplacé mon père par des bouquins. Putain, je peux faire une comédie. Et j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir faire une comédie.
Mais comme pour vous soulager aussi, comme pour vous soigner.
Alors ça, non, on fait pas des films pour se soigner. On croit vraiment, vraiment que.
On fait des chansons pour se soigner, donc pourquoi pas des films.
Oui, on chante en tout cas naturellement. On devrait chanter tout le temps. Non. Mais pourquoi cette pudeur du chant? Pourquoi on n'ose pas?
Pourquoi on chante pas dans la rue en marchant à haute voix?
Parce que c'est agréable.
Pour respecter les autres.
Oui, c'est ça.
Non, parce qu'on passe pour un fou. C'est ça.
Non. Quand on chante fou, on ferme sa gueule.
Non, mais peu importe.
Mais non, dès qu'on est seul, on chante.
Juste, peu importe.
Dès qu'on est seul, on danse.
Oui.
Et on s'aime.
C'est pas convaincu, Nagui. Oui.
Non, mais peu importe.
Non, mais il a raison. Seul, je m'en fous de faire du bruit et de chanter. Mais dès qu'il y a une personne, je.
C'est un roucoulement. C'est une. Et la chanson aussi, voilà. Les coques de bruyère, des larieux. Et le chant, souvent, prend en charge des peines.
Mmh.
C'est rarement des chansons heureuses.
Et les livres, ils prennent quoi en charge chez vous?
Là, oui, c'est ça, c'est de la charge, c'est du poids.
Ouais. Hein,
faut s'en débarrasser. C'est pour ça que ça s'appelle Mange ta soupe.
Ouais.
C'est-à-dire, putain, digère tout ça, là.
Ouais.
Digère tous ces bouquins.
Vous avez beaucoup de livres chez vous, ou vous essayez de vous en débarrasser régulièrement? Parce qu'une bibliothèque, ça peut être vite envahissant.
J'ai déménagé, je viens en coloc.
Ouais, bah ouais.
Et donc, on a mis une bibliothèque un peu vide. Ouais.
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 C'est apaisant.
Ouais.
Que ce soit un peu vide.
Ouais.
On trouve des idées de films dans les livres, généralement aussi.
Bien sûr, mais dans tout. Partout. Mais après, les livres, si vous voulez, on peut avoir un rapport extrêmement sensuel. Totalement. C'est pas des histoires de savoir.
Il y a l'odeur.
L'odeur.
L'odeur d'un livre est géniale.
L'odeur,
aussi.
Ouais. La percussion. Enfin, je comprends très très bien pourquoi dans Tintin, l'idée, c'est une ampoule, quoi. Un truc comme ça.
En 2008, revenons à James Bond.
Johnny Mitchell, Blue.
Et Mathieu 2008, vous êtes Dominic Green, le méchant, l'homme d'affaires crapuleux dans Quantum of Solace de Mark Foster. Jouer un méchant, j'imagine, surtout dans un James Bond, ça peut être un rêve de gosse.
C'était même pas un rêve.
Même pas.
Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est drôle, hein.
Et comment vous avez trouvé cet opus-là, Quantum of Solace?
J'ai adoré travailler avec les cascadeurs. C'est ça qui m'a ouais. vraiment, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Ils font de la méditation. Mmh. Eux, ils frôlent la mort, vraiment.
Vous avez voulu faire des cascades vous-même à un moment?
Ah non, tu fais les cascades toi-même. Ouais. La marque de fabrique de James Bond, c'est que tu fais tout en vrai.
Ah d'accord, tout.
Les cascadeurs font les choses en vrai.
Mais vous?
Oh, des fois, oui. Oui. Mais
bah quand même,
ça allait parce que c'était un méchant qui savait pas se battre. Donc on apprenait
à la fin.
Mais non, justement, il prend n'importe quoi, etc. Et on a travaillé la chorégraphie avec les cascadeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un mec qui sait pas se battre et qui est du coup illisible mm-hmm. pour James Bond? Il est plus dangereux.
C'est vrai.
Parce qu'il comprend pas ce qu'il va faire. Et c'est un nerveux. Et ça, c'est du travail. J'ai adoré faire ça.
Le paradoxe, c'est maintenant vous vous battez contre James Bond au cinéma aujourd'hui.
Ah non, là, c'est complémentaire les deux films. Ouais, totalement complémentaire.
Au contraire, ça attire du monde au cinéma.
Ah, il faut que les gens retournent au cinéma. Là, les salles et le théâtre et les concerts, les gens n'ont pas encore. Ils ont trouvé des nouvelles habitudes qui devraient être juste complémentaires.
Ça reprend, c'est génial, les plateformes. Ça reprend.
Mais voilà, ça reprend.
La vie.
Donc, doucement.
James Bond va aider Tralala et Tralala va aider James Bond.
Oui, ils comptent beaucoup sur vous, ils m'ont dit.
Je sais.
Ouais, Daniel... Les brocolis m'ont dit.
Ouais. Ouais, Barbara. Brocolis,
en 2010, vous écoutiez.
Plus fort.
Snoring, I'm wearing out the flooring in a cheap hotel, but I don't have to work it. And I might be silly, but I'm never gonna have to hear the rings of school bells. Do 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 do.
Vous avez envie qu'on le laisse en entier ou quoi?
Ah ben non, mais c'est les White Stripes. Non, ce que je faisais à chaque fois, je le remettais au début. C'est pareil, c'est les comment les musiques t'aident à écrire. Et là, c'était pour écrire tournée et pour être dans cette espèce d'énergie.
Ah ouais, ça on
c'était
voit.
Ça, toujours ouais. ça. Et je remettais à zéro. Et ça fait le lien avec le James Bond puisque c'est Jack White qui a fait la musique de Quantum of Solace.
Vous écrivez toujours en musique.
Et c'est, bah, c'est pour trouver le ouais tourner. Il fallait une espèce de. Et donc je le remettais à zéro et je mettais deux fois plus fort. Et je me fous dans un certain état. Ouais. Pour ça, moi, fort, c'était pareil avec Rameau. Ça me faisait pleurer et ça m'aide.
Ça se passe comment avec votre entourage quand vous êtes
Je vis avec une chanteuse d'opéra, donc ça va.
Ça va.
Vous faites tellement penser à Gainsbourg, mais c'est incroyable.
Ah bon.
C'est incroyable.
Un peu, ouais.
C'est incroyable.
Mon père, des fois, on le prenait pour Gainsbourg sur l'autoroute.
Non, mais
au péage, je me souviens. Oh, monsieur Gainsbourg, ça c'est arrivé. C'était son anniversaire aujourd'hui. Papa, 6 octobre.
On pense à lui. The Air Near My Fingers, donc cette musique l'aide à créer tournée.
Et oui, on est en 2010, vous décrochez le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et vous dites que vous avez créé ce personnage masculin qu'initialement vous ne deviez pas incarner.
Décidément.
Mais vous vouliez créer un personnage qui allait aussi être différent des personnages qu'on vous avait fait jouer précédemment, où on voyait en vous une forme de bibliothécaire, de mec hyper... dans l'esprit, en fait.
Prof de MJC, tu veux dire?
Non, mais en tout cas, plus versé dans le monde des idées.
Oui.
Ah, pas prof de MJC.
Non, à vrai dire, je me suis inspiré de producteurs.
Ouais.
Je suis très impressionné par le risque.
Ouais.
Des producteurs, des gens comme Jean-Pierre Rassam et mon papa en cinéma, qui est Paulo Branco, un producteur portugais, qui, je pense que sans lui, le cinéma d'auteur français et mondial ne serait pas le même. C'est fou tout ce qu'il a produit. Et ce type s'est toujours mis en danger. Donc ces gens-là qui m'ont mis.
Comment expliquer le métier?
C'est lui qui devait le jouer, c'est Paulo qui devait le jouer.
Comment expliquer le métier, le rôle de producteur à ceux qui pensent qu'un producteur n'est que. Un faiseur d'argent, voilà.
Non, les producteurs cherchent de l'argent, ils en ont pas. Et c'est ça qui est excitant. Non, non, et surtout, il faut voir de produire les...
Il y a une dimension artistique aussi dans le producteur.
De jeu, ouais. De jeu artistique, de rencontre, d'amitié, d'admiration. Mais non, l'artistique, pas tellement. Mm. Par... en se mettant à la place de quelqu'un d'autre aussi.
Vous avez des idoles, des repères en tout cas dans ce métier, des gens qui constituent votre bande, votre famille.
Oui, oui, oui. Et mais je suis très mauvais en liste et ça change tout le temps.
Non. Mais vous choisissez, vous préemptez, vous vouliez d'amitié sur quel critère justement.
Mais quelle question alors là, critère.
Vous avez besoin, besoin d'admirer.
Il y a des cris et il faut se taire.
Vous avez besoin d'admirer les personnes. Vous avez besoin de qu'ils soient d'un univers totalement différent.
En tout cas, si je me sens plus en vie, oui. Enfin, de voir le monde tel que je ne l'avais pas perçu, il semblerait. Oui.
Et après,
c'est vrai qu'il y a une troupe.
Vous pouvez être ami avec quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord.
Je pensais pas à des histoires d'opinion. Je pensais vraiment des perspectives.
D'accord.
Je n'avais pas vu le monde comme ça. Je tourne avec les Larieux. Soudain, me revient le fait que le désir, le corps, la chimie, y a que ça. Y a que ça. Je tourne avec des Pleuchins. Je croyais qu'on avait tous des toutes petites vies merdiques. Et en fait, on a des conflits shakespeariens à chaque seconde. On a des grandes vies. Vous voyez? Ah, chouette. Voilà.
Allez, un petit coup de White Stripes.
Ouais.
Alors vous dites aimer les producteurs, en voici un de producteurs, c'est Laurent Vallière.
Producteur radio, hein.
Bah oui, bah
c'est autre chose.
C'est un début, hein. T'es qu'est-ce que ça contre les producteurs radio?
Non,
truc qui part en vrille. 42e rue, tous les dimanches à 13h, consacré à la comédie musicale. Vous êtes auteur également de 42e rue, la grande histoire des comédies musicales aux éditions Marabout. Le genre de la comédie musicale est né... Il a une date de naissance?
Ah, il a une date de naissance. Il est né aux États-Unis. C'est un truc typiquement américain. Il y a que les Américains qui savent, comme ça, infuser le swing, la danse, le côté chant. Un petit peu opératique et le chant.
C'était d'abord que de la danse et de la musique? Ou il y avait déjà des chansons?
Bah, la mère de la comédie musicale, c'est l'opérette. C'est évidemment, au départ, ça vient de l'opéra, bien sûr. Mais ça, c'est pas les Américains. Et en fait, quand ça arrive aux États-Unis, il y a ce jazz qui infuse la musique. Et la vraie première comédie musicale, elle date de 1929, c'est Showboat. C'est une comédie musicale qui raconte, en fait, l'histoire d'une troupe qui navigue sur le Mississippi et qui s'arrête qui fait différentes escales. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille sur plusieurs années. C'est un peu comme un autant n'emporte le vent de la comédie musicale, et c'est la première fois qu'il y a dans une œuvre sur scène à Broadway tous les styles musicaux. Il y a à la fois de l'opérette pour certains personnages qui sont plus âgés, des grandes chansons lyriques pour une personnage qui est victime de racisme et d'autres choses comme ça. Ça parle aussi d'ailleurs, c'est très sombre, Showboat, ça parle aussi de violence familiale. C'est la première comédie musicale, c'est la première fois.
On est dans les années...
On est en 1929, c'est pile poil à la crise de 1929.
Le début du parlant, alors.
Et le début du cinéma parlant, d'ailleurs, on peut presque faire un parallèle. C'est l'époque où c'est la dépression économique. Mmh. Et des fois, on se demande si aujourd'hui, on n'est pas dans la même période, à savoir qu'on a une grande dépression et que les gens, tout d'un coup, vont avoir besoin de spectacles où on se met à chanter et à danser, oui.
Le propre d'une comédie musicale, c'est d'avoir évidemment de la musique, généralement de la danse, mais aussi une histoire. Est-ce que l'histoire est plus importante que les chansons, ou c'est essentiellement les chansons qui font... l'histoire et le succès d'une
comédie. C'est pour ça qu'on dit que Chobot est la première comédie musicale, en fait. C'était, jusqu'à présent, vous aviez des revues. Vous aviez Florent Ziegfeld, qui était un grand producteur, pour le coup, qui mettait beaucoup d'argent pour que quand les gens à New York, lorsqu'ils vont au spectacle le soir, après une journée harassante, ils aient des jolies filles, ils aient plein de tableaux. C'était souvent, vous voyez, un ensemble de sketchs, et puis après une chanson. Et Chobot, en 1929, c'est tout d'un coup, on prend un roman, donc type Autant n'emporte le vent, et on va raconter cette histoire, exactement comme dit Mathieu Amalric tout à l'heure, à savoir que tout d'un coup, quand il faut que les personnages expriment une émotion extrêmement forte, plutôt que les personnages se mettent continuer à parler, ils se mettent à chanter. Mmh. Et en fait, c'est
et
la grande
différence. Et que les chansons portent l'histoire.
Et les chansons portent l'histoire. Mmh. Et même le grand truc, c'est que les Américains détestent.
Au fur et à mesure, ils démontent.
Oui,
il a commencé, il avait un casque sur la tête. Après, il a enlevé le casque qu'il a mis autour du cou, puis maintenant, il l'enlève.
Parce que maintenant, il va chanter.
Sur la table.
Voilà. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il essaye de grappiller un peu.
Il va piquer le micro, je crois. Il va se passer un truc très bizarre.
Non, c'est que les personnages, tout d'un coup, ressentent le besoin.
Toi, tu vas dire, moi, j'écoute.
Ils ressentent le besoin d'exprimer en chanson quelque chose de très, très fort. D'ailleurs, on le voit dans Tralala. C'est des moments hyper importants dans la narration.
C'est la grande différence entre la comédie musicale américaine et la comédie musicale française, c'est qu'en fait vous savez, on peut prendre par exemple Mary Poppins. Mmh. Mary Poppins qui est typique une comédie musicale faite par Disney certes, mais ou même Blanche-Neige. Et en fait, ce que voulait Walt Disney lorsqu'il avait demandé aux auteurs Richard Sherman et Robert Sherman, c'est on ne veut pas lorsque les Mary Poppins chantent ou quand il y a une chanson, on ne veut pas que ça soit ce qu'ils appellent des talking heads. On veut pas des gros plans sur un personnage qui chante et qui se passe rien. On veut qu'au début et à la fin de la chanson, il s'est passé quelque chose. Rappelez-vous de Jolly Holiday, où tout d'un coup, Mary Poppins est sur un manège et tout d'un coup, tout en chantant, les chevaux se détachent et se mettent à courir sur un hippodrome. Et en fait, la comédie musicale, c'est ça au départ. C'est, il faut que les chansons ne soient pas juste des reflets d'état d'âme, mais aide à la narration. Le moment le plus beau, par exemple, c'est dans Tous en scène, le film de Vincente Minnelli. Il y a une histoire, une romance compliquée entre Fred Astaire et Sid Charisse. En fait, les deux se détestent. Fred Astaire trouve que Sid Charisse est trop grande et ils veulent absolument pas jouer ensemble dans une pièce de théâtre. Mais il n'empêche que tout d'un coup, ils vont se balader à Central Park et tout d'un coup, la balade, le pas se transforme en danse nonchalamment. Tout se fait en musique uniquement, et à la fin, lorsqu'ils rentrent dans leur carrosse pour retourner aux répétitions, on se rend compte qu'en fait, qu'ils sont tombés amoureux. La comédie musicale, c'est ça, c'est tout d'un coup la danse, même des fois c'est pas le chant, vous prolonge et vous emmène et raconte quelque chose que peut-être les paroles ne peuvent pas raconter.
Mais il y a quand même plusieurs catégories de comédies musicales, celles justement qui sont écrites pour être chantées, d'autres qui prennent des histoires, et je pense aux comédies musicales qui ont eu du succès en France, comme
Notre-Dame.
Ouais, c'est ça, c'est l'adaptation d'un roman ou les Dix Commandements, où on se dit, ok, là on est dans quelque chose qui est déjà structuré, on a une narration, il n'y a plus qu'à trouver les morceaux et les chansons pour les interpréter. Il y a des films musicaux aussi où on parle, où on vit, et de temps en temps, on chante. Et c'est une question de proportion. À quel moment on devient une comédie musicale entre le jeu et la musique et le chant?
En France, on a inventé l'opéra rock, ce dont vous parlez, Notre-Dame de Paris, Starmania, la Révolution française.
Sauf que Starmania, ça partait vraiment d'une création de Michel Berger et Luc Plamondon. Ils ont vraiment tout écrit, l'histoire et les chansons.
Tout à fait.
Quand on parle du Roi Soleil ou quand on parle de Notre-Dame, là, c'est à partir d'une adaptation d'une histoire déjà existante.
Mais ça n'empêche qu'en fait, ce sont des chansons. En fait, tous ces Français-là, lorsqu'ils ont créé ces opéra rock, on va appeler ça des opéra rock. Ouais. Ils se sont inspirés de ce qui s'était passé dans les années 70 à Londres et à Broadway, qui était l'adaptation de Jésus-Christ, c'était la création de Jésus-Christ Superstar. Tout d'un coup, Andrew Lloyd Webber a créé une comédie musicale autour de la Bible, et les auteurs, que ce soit Michel Berger, Luc Plamondon ou Alain Boublil, Claude Michel Schoenberg, les auteurs des Misérables.
Il avait fait l'opéra de Katsu aussi avant.
Oui, il y avait l'opéra de Katsu avant dans les années 30, mais c'est vraiment Jésus-Christ Superstar qui tout d'un coup les auteurs de variété se disent waouh, on peut faire des comédies musicales avec de la pop musique. Mmh. Jusqu'à présent, la comédie musicale à Broadway, c'était plutôt des classiques, Leonard Bernstein, Richard Rodgers,
Singing in the Rain et compagnie.
Ouais. Et tout d'un coup, ils se disent ah, mais on peut faire une comédie musicale avec des chansons. Et c'est comme ça qu'ils vont créer Starmania, c'est comme ça que la Révolution française va être créée. Et en fait, ce sont des comédies musicales où le livre livret est quasiment inexistant. C'est la grande différence entre les comédies musicales en France et les comédies musicales américaines, c'est le livret. Vous avez toujours un librettiste à Broadway et les répétitions durent toujours des jours et des jours. Par exemple, l'exemple le plus impressionnant, c'est West Side Story. West Side Story, le librettiste disait à Jerome Robbins et Leonard Bernstein, les auteurs de la comédie musicale, allez-y, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dans mon livret, vous pouvez en faire des chansons. Moi, peu importe, je vous ai écrit une sorte de noyau, de trame de toute l'histoire. Et par exemple, je sais pas si vous vous rappelez du début de West Side Story, il n'y a pas de parole pendant 10 minutes. Mmh. Alors qu'au départ, Arthur Lawrence, le librettiste, avait écrit plein de paroles, des dialogues entre les différents membres des Jets. Et lorsqu'ils ont commencé à mettre en scène la chose, Jerome Robbins, le chorégraphe qui était un génie, disait, bah, finalement, on n'a pas besoin de tous ces dialogues, on n'a qu'à avoir des petits sons comme ça, des cris des Jets, mais on va tout faire en danse. Et c'est la grande différence avec la comédie musicale française où très souvent on a l'impression que ce sont des enchaînements en fait de clips et que le livret est très peu important.
Alors il y a des comédies musicales françaises qui ont eu du succès uniquement en France et puis l'inverse, je pense aux Misérables qui ont eu du succès uniquement à l'étranger.
Ah
qui,
oui, les Misérables c'est un truc de fou.
Claude-Michel Schoenberg lance au Palais des Congrès, si j'ai bonne mémoire, ouais. Les Misérables. Ça tient quelques jours ou semaines, puis ça s'arrête et c'est toujours à l'affiche aux États-Unis et en Angleterre.
Ah oui, mais ça c'est leur plus grande déception à Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil. C'est inexplicable, l'adaptation au cinéma des Misérables, la comédie musicale a cartonné partout,
sauf en France.
Ouais. Oui, il y a un truc qui se passe.
Est-ce que c'est la musique là qui pose un problème? C'est-à-dire que la musique qu'ils ont composée a trouvé un écho dans les oreilles et dans le cœur des anglo-saxons et pas des français. C'était pas des tubes en France alors que ça l'est devenu à l'étranger.
Bah, j'avais rêvé d'une autre vie. C'est quand même resté un tube de Rose Laurence. Il y a plein de chansons qui sont restées des tubes. L'album.
Enfin, pardon, quand on a. Ce sont des énormes, ouais, des énormes succès, ouais. Mais qui ne sont pas exportés, donc qui plaisent au public français.
Alors qu'ils ne sont pas exportés, non, c'est pas vrai. Figurez-vous qu'en Chine, ils adorent la comédie musicale française. Alors, il y a des raisons certainement économiques.
J'avais raté cette info.
Ah ouais, vous pouvez demander à Gérard Presgurvic. Oui. Il fait tourner son Roméo et Juliette dans toute la Chine. Pardon ?
Oui, ça tente toujours.
Ah oui, ça cartonne. Et il tourne avec la troupe française.
Parce qu'ils ne comprennent pas les paroles qu'ils aiment.
Est-ce qu'il y a un top 3 pour vous des comédies musicales incontournables dans l'histoire des comédies musicales, qu'elles soient françaises ou américaines ?
Ah bah West Side Story, ça reste un incontournable. Parce que
c'est votre numéro 1.
Ah ouais, mais c'est la plus belle, c'est la plus forte. Et en plus, c'est une comédie musicale qui casse tout ce qu'on peut penser d'une comédie musicale. Il y a des morts, il y a de la violence, il y a du viol.
Calmez-vous, Laurent. Ah,
super.
Laurent, calmez-vous. Votre micro est ouvert.
Spielberg va s'en emparer, en plus.
Et Steven Spielberg va s'en emparer, oui. Ouais.
Alors ça, c'était numéro 1. Numéro 2.
Numéro 2, Chantons sous la pluie, parce qu'en fait, vous regardez Chantons sous la pluie, ça n'a pas vieilli. Ça se moque des départements publicité des cinémas. Vous savez, c'est l'histoire quand même d'une chanteuse qui chante comme une casserole dans les années 1920, parce que c'est
l'arrivée
encore du cinéma muet.
Comment ? L'arrivée du parlant.
Ouais. Et c'est l'arrivée du parlant, et du coup, on décide de la doubler par quelqu'un d'autre d'inconnu, pour qu'elle demeure une star quand le cinéma devient parlant.
Et numéro 3 ?
Numéro 3, je sais pas, les Parapluies de Cherbourg, c'est resté incontournable.
Donc on est d'accord, rien de récent. Même La La Land, pour vous, ne trouve pas grâce à vos yeux.
Si, La La Land.
Si,
mais il y a des comédies musicales actuellement qui tournent en France, qui sont pas au cinéma, qui sont formidables. Pierre Guillois, par exemple, a créé une comédie musicale de science-fiction qui s'appelle Mars 2037. Ils sont en apesanteur, les quatre chanteurs chantent la tête à l'envers, et c'est super drôle. Vous avez une autre comédie musicale de David Lescot qui s'appelle Une femme se déplace, qui tourne également en France actuellement, et ça raconte, c'est très contemporain, ça parle d'une femme avec son téléphone portable qui arrive à remonter le temps. Mais vous avez au milieu des terroristes, Daesh, des trucs comme ça.
Mais on est d'accord qu'il faut des succès, il faut quand même que ça chante et qu'on ait en tête en sortant de la salle l'air.
Vous savez, vous avez remarqué que depuis 10 ans, il n'y a plus de grandes comédies musicales en France. Le problème, c'est que l'industrie du disque a périclité et que très souvent, les comédies musicales, c'était le cas d'ailleurs pour Jésus-Christ Superstar ou Les Misérables. D'abord, c'était un album, on le cartonnait, c'est on le passait à la radio, et puis après, ensuite, les gens, une fois qu'ils chantaient, ils allaient voir. Et en fait, ça s'est arrêté en gros avec Mozart, l'opéra rock, et 1789. Depuis, l'industrie du disque va mal, et il y a très peu de producteurs aujourd'hui qui investissent énormément. Le gros, le grand pari, là, c'est la comédie musicale autour de Michel Sardou, Je vais t'aimer, qui va débuter d'ici quelques semaines à Lille.
Ah, on a hâte.
Et c'est encore autre chose.
Donc, voilà, c'est une très belle conclusion. Merci Laurent. Laurent Vallière, vous le retrouvez donc tous les dimanches à 13h pour son émission sur France Musique consacrée aux comédies musicales.
Merci.
Voici Daniel Morin. Quel est le héros du jour, Daniel ?
Alors aujourd'hui, Nagui, mon héros s'appelle Siegfried Gillis. Siegfried Gillis est le gérant d'une sandwicherie à Louvain, en Belgique. Alors oui, je vous entends d'ici, Nagui. Non. Comment ? Un héros belge ? Ça n'a aucun sens. Ces gens sont immondes. Laissez-moi poursuivre par pitié, Nagui. Siegfried est en pleine bourre ce jour de septembre. Pain de mie, fromage, jambon, cornichon, mayo, il enchaîne comme un fou. Un client commande deux sandwichs. Tenez monsieur, vous payez comment ? Par carte ? Ok, parfait, voilà. Sauf que Siegfried est fatigué. Au lieu de taper 7,50€, il tape 750€. Le client tape son code, le paiement est accepté, il prend son casse-dalle, ses casse-dalle et il s'en va. Le lendemain, Siegfried fait sa caisse et il s'aperçoit de la bourde. Qu'aurait fait Siegfried s'il avait été français ? Il aurait appelé tout le personnel, il aurait fait une petite réunion pour expliquer comment entuber un client pressé. Parce que, reconnaissons-le, 750€, même avec le meilleur emmental du monde, avec la maillot la plus onctueuse de la planète, avec un jambon tiré de la cuisse d'un porc qui aurait eu le prix Nobel, ça fait cher le casse-croûte. Eh bien le Siegfried, il lance des recherches. Des recherches sur les réseaux sociaux pour retrouver le gars et pour le rembourser. Il y a un truc avec les Belges. Il y a un truc. Il y a ce petit truc hyper fair-play que, bah, que nous, on n'a pas. Hein. Regardez en football, demi-finale de Coupe du Monde. La France mène 1-0, les Belges, ils se disent pas « Allez les gars, on y croit, on y va !» Non, fair-play. Ils reconnaissent que la France joue mieux. Ils décident que la qualification en finale est plus méritée pour les hommes de Didier Deschamps.
Évidemment.
Et ils laissent filer le match en mode soumission. Le Belge, il est humble, contrairement au Français. Le Belge,
arrogant.
Il sait très bien qu'avec, comme fierté, le Belge, comme fierté nationale, les gaufres et les frites, il peut pas prétendre à dominer le monde. À contrario du Français qui a inventé la pétanque et la mauvaise foi, et qui de fait peut prétendre à un rôle de leader sur la scène internationale du bon goût et de l'intégrité. Les Belges en général, et Siegfried Gillis en particulier, sont des gens qui, malgré un phrasé baroque qu'on peut aussi qualifier de dégueulasse, redonnent de la noblesse à l'espace francophone.
Merci Daniel Morin. France Belgique, c'est demain soir.
C'est demain soir
le match.
La revanche.
Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler des Pandora Papers. C'est super parce qu'on découvre plein de coins sympas. Les îles Vierges, les Bahamas, le Panama. Ça m'a donné plein d'idées pour cet été.
Très. On va continuer de parler avec Mathieu Amalric de Tralala.
One came the back from the darkness. It was seen.
Ce film musical d'Arnaud et Jean-Marie Larrieux, porté, incarné par Mathieu Amalric, chanté, surtout ne soyez pas vous-même, moi je le suis puisqu'on est à l'heure. La bande originale avec Mathieu Amalric.
Ah oui.
Je suis un hôtel. On entre en moi, on prie en moi, on dort en moi, on s'aime.
Ce chanteur de rue.
Je suis un drôle d'oiseau en quête de ciel bleu.
Oui.
Où es-tu, mon ange bleu ?
Sur le château de Lourdes, c'est sa période médiévale.
C'est ça.
Dans un espèce de ukulélé, de banjolélé, parce que Denis Lavin lui a jeté
sa guitare
électrique.
Quelle horreur, mais c'est un crime de jouer
comme ça.
Mille millions de papillons, la nuit est un matin au paradis.
Vous avez été coaché, guidé pour chanter ?
Non.
Ah ouais ?
Ah non, il n'y avait pas le temps. Je vous ai dit, c'était 5-6 semaines avant. Philippe Esnou est venu.
Coach, il peut venir une heure avant, excusez-moi.
Non.
Il peut venir 8 mois avant.
C'est pas l'idée. Non, ça, ouais. Après, voilà, vivant, ayant la chance de vivre avec une chanteuse d'opéra, et c'était le confinement juste avant, et bien chez nous en Bretagne, elle me donnait des cours de chant à 18h tous les soirs.
Ah bah voilà.
Mais pas pour préparer film.
Pourquoi ?
Pour le plaisir.
Pour l'oreille, pour le...
Pour le plaisir. Pour
placer sa voix.
Pour l'érotisme, pour le plaisir. Oh. Mais je chantais plutôt du Handel, des choses comme ça. Je brûle entre deux feux. Oui, il y a tout, je brûle. Il essaye tout. Oh. Là, c'est voilà, le chanter, parler, toujours.
Et c'est plus dur de se regarder ou de s'entendre?
Oh. Mais j'aime tellement le monde des...
Non, parce que c'est hyper dur de se regarder.
Très belle question, ouais.
Toi?
Non, mais j'aime tellement le monde des larieux. Et là, je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive, ce tralala, je n'arrivais plus à m'en débarrasser. J'ai laissé pousser les cheveux. Là, on disait tout à l'heure, Jésus-Christ superstar, voilà, mais c'était ça. Je voulais rester ce gars.
Enfin,
j'étais Mick Jagger, quoi, tout ce que j'avais pas eu le courage de faire.
C'est le fantasme de beaucoup de comédiens d'être rockstar ou d'être chanteur.
Oui, ou d'adolescent, tout simplement. Ouais.
Oui, c'est ça, devant la glace. Ouais.
Mais beaucoup de comédiens le disent à ce micro, qu'ils rêveraient d'être rockstar.
La musique et de toute façon, le cinéma réunit tous les ratages dans tous les arts. C'est...
Ah oui.
Ouais. Ah ben voilà le père de Galatea. Guccio.
Le prêtre.
Comme c'est beau ce visage sur des corps immobiles.
Il y a beaucoup de nonnes qui dansent aussi. Hein.
Ah ouais, ils chantent même sur des boogies.
Ça s'appelle Tralala, c'est le nouveau film des frères Larieux. Voici Tanguy Passion.
Ah oui, Tanguy. J'ai beaucoup de défauts, notamment je suis trop perfectionniste, trop fidèle en amitié, et j'ai tendance à avoir trop d'empathie pour les autres, notamment pour les pauvres à qui je donne trop d'argent. Mais j'ai aussi une qualité, je suis trop honnête. Hein, par exemple, j'ai jamais grugé les impôts. Pas par conviction, hein, bah non, mais par peur de me faire choper. Je tremble à l'idée qu'un jour Bruno Le Maire m'appelle dans le cadre des Bank Postal Papers, parce qu'il aura trouvé 310 euros sur mon compte ne correspondant à rien, et que comme il est très soporifique, je m'endorme au téléphone. Mais vous savez que je suis seul dans ce cas, les autres stars, enfin les stars, s'en fiche, hein, ça défiscalise, ça planque du fric. L'autre jour en coulisses de la tournée France Inter, j'ai réalisé en parlant aux autres humoristes que j'étais le seul à ne pas avoir de yacht. Fanny Ruet m'a dit, bah oui, Dio, tu crois que je fais comment les allers-retours Belgique-France en Thalys à côté des gosses qui sentent le pipi? J'ai répondu, mais tu fais comment? Tu navigues sur un cours d'eau? Elle m'a dit, non, j'y ai mis des roues. C'était une option à 120 000 chez le vendeur de yacht. Je me suis dit, fais pas ta crevarde. Et encore, le jet de Daniel Morin, l'air spoil de Torres One à côté des Pandora Papers, c'est rien. Les Pandora Papers, ça c'est énorme. 150 médias internationaux ont enquêté sur l'industrie offshore en se basant sur une fuite de 12 millions de documents confidentiels. 12 millions ! Moi, quand j'ai une chronique de 2 pages, je me dis, ça va être trop long, Nagui va se barrer. Là, tiens, vous savez ce qu'il faut pour transporter 12 millions de documents ? Non ? Eh ben moi non plus. On peut pas tout savoir. Par contre, je sais que l'ornithorynque grogne. Ouais, bon. Donc j'ai lu l'enquête des Pandora Papers et c'est so VIP ce truc, mais il y a tout le monde. Hein. On trouve le nom de Guy Forget, accusé d'avoir une société offshore, donc la cellule investigation de Radio France, hein, des gens qui passent leur vie à chercher. L'autre jour, ils ont retrouvé les clés de la 205 Roland-Garros que Jacques Vendroux avait perdu en 89. La cellule a appelé Forget, il a répondu être dans l'incapacité de répondre aux questions techniques. En général, on dit ça quand on a délégué le truc à quelqu'un. Moi, si on me dit « sympa, les murs de ton salon, c'est quel coloris de peinture précisément ?» Je dis « je suis dans l'incapacité de répondre à cette question technique. » Il y a un moment où Thomas Sisley, on disait « cool, ton sketch, comment as-tu trouvé l'idée de départ ?» Il répondait « je suis dans l'incapacité, bon, hein, bref. » Alors, sont aussi accusés d'avoir planqué de l'argent à l'étranger Shakira, hein, la chanteuse qui secoue tellement son boule qu'on a l'impression qu'elle a les fesses parkinsoniennes, Elton John, qui détient 12 sociétés aux îles Vierges, et il est tellement con qu'il les a appelées selon les titres de ses plus grands succès. Par exemple, là, il y a Lion King Limited, super discret, hein, parce que la règle normalement est d'essayer de tromper le fisc, donc il faut faire le contraire de ce qu'on est. Si Arlette Chabot monte une société offshore pour défiscaliser ses tickets resto d'LCI, hein, il faudrait qu'elle l'appelle c'est la grosse fiesta limited. Les enquêteurs partiraient sur Hanouna, l'ancien, hein, celui qui tirait l'élastique des slips, pas le nouveau qui est persuadé de peser dans le débat public. Quant à Julio Iglesias, l'ancien chanteur de charme pour Mamie à demi-moite, il aurait 20 sociétés offshore qui lui auraient servi à acheter 5 villas de luxe sur la même île près de Miami. Génial sa vie, il part dans sa résidence secondaire, c'est à 400 mètres de la principale. Donc en fait, il reste à moisir sur son île, comme Napoléon à la fin de sa vie, mais avec des télés 4K. Alors je sais ce que vous vous dites, tout ça n'est pas très grave, qu'il n'a pas caché un jour 40
40 millions aux Bahamas. Tout le monde fait ça dans la chanson, m'avez-vous dit, Nagui? J'étais surpris. J'ai dit, ah bon, même des chanteurs avec une vraie conscience de gauche, comme Barbelivien. Vous m'avez répondu, je sais pas, mais le groupe Trio a défiscalisé dans une ZAD de la Nièvre. Ils ont enterré 60 euros sous les toilettes sèches d'un ami. Et ça ne me dérange pas, parce que je veux dire, Shakira, Julio, Elton John, ce sont juste des stars de la pop. Mais c'est pire quand des chefs d'État sont impliqués. Dans les Pandora Papers, on parle quand même du couple Blair. Hein, Tony Blair et sa femme chérie. La seule dame qu'on a l'impression de cajoler en disant son nom, alors qu'en fait, on voulait juste l'appeler pour lui demander où était le plat à tourte. On a le président du Kenya, élu sur un programme anticorruption quand même, et qui a placé 30 millions de dollars en offshore. Donc, il va devoir se punir lui-même. Hein. Il va se pendre, se prendre par son propre col et se jeter en tôle. Imran Khan, président pakistanais, élu aussi sur anticorruption, en réaction à l'ancien président pakistanais qui lui était impliqué dans les Panama Papers, hein, l'enquête précédente, a placé des millions sur une île. On ne sait même plus laquelle. Un jour, Jocelyne de Koh-Lanta va monter en haut d'un dattier pour cueillir des fruits. Et là, elle va trouver 100 000 euros dans une mallette. Hein, elle va faire la bise à Denis Brognard en disant, bah, dis donc, ils ont mis le paquet TF1 cette année. Hein, le président de l'Azerbaïdjan, mieux, il a ouvert des comptes offshore au nom de son fils de 11 ans, lequel avec l'argent a acheté un immeuble de bureau à Londres, hein, officiellement pour en faire une grande salle de jeu. Voilà, pour que ça passe, ils ont foutu une boîte de Lego à chaque étage. Enfin, dans les Pandora Papers, on trouve Dominique Strauss-Kahn, hein, qui a fait transiter des millions de dollars d'honoraires de conseils et des entreprises par une société marocaine exemptée d'impôts. Et je vais vous dire, ça fait du bien de voir le nom de Strauss-Kahn ailleurs que dans une affaire d'agression sexuelle. C'est presque frais, quoi. On a envie de lui dire encore, vas-y, prends, c'est bon de te voir revenir à ton cœur de métier, bébé. Là, au moins, tu partiras pas en prison. Eh ben non, parce qu'une caissière qui détourne des bons de réduction, elle prend 3 mois ferme. Mais les puissants du monde entier qui gardent tout pour eux ne seront jamais inquiétés. Au pire, Bruno Le Maire va les appeler s'ils sont français et en l'entendant, ils s'endormiront au téléphone.
Merci. Mon doigt qui a dérapé, j'ai voulu te faire des bisous.
Voilà.
C'est mignon.
Et Tanguy, attends, Tanguy, on te retrouve ce vendredi à Capendu.
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 Oui. Capendu.
C'est les Carcassonne.
Capendu.
Capendu. Capendu près de Carcassonne, pardon, Tanguy, c'est vendredi.
Le spectacle.
Ça sera pas le double.
Avec Loutangou. Loutangou Pastelou.
Pastelou.
Il y a un petit côté provençal.
Ben oui, c'est joli.
J'en peux plus.
Dans le monde de la culture, Tralala est au cinéma aujourd'hui. Et Leïla, quoi d'autre?
Oui, Leïla.
Ah, du coup, j'ai peur de dire tous les hauts en ou. On parle déjà de ce film pour les prochains Oscars. C'est la tragédie de Macbeth. Macbeth. Mais qui en est le réal? Ah.
Nolan.
Non, il a travaillé sur plus de 21 films.
Gévaudan.
Scorsese.
Et c'est la première fois.
Macbeth de Gévaudan. Non,
c'est la première fois qu'il va travailler sans sa moitié.
Fabien Antoniente.
Non.
Est-ce que c'est des frères et sœurs?
Cohen, absolument. Allez. C'est Joël Cohen.
Ah, les frères Cohen, j'adore.
Absolument. Et donc, la tragédie de Macbeth, absolument.
Ouais. Au cinéma?
Au cinéma, avec, dans les rôles, Denzel Washington.
Non, ça vous donne envie?
Bah oui, oui, ah oui, oui, oui.
Ah ouais. Et Frances McDormand, pour l'un, le général écossais régicide, et son ambitieuse
et
épouse.
Et le pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fout, rien?
Et ben, il se repose.
Ah ouais, bon.
Voilà,
ah
c'est
ouais.
Important. Il tourne, il tourne. Vous êtes fan des frères Cohen?
Ah oui, oui, oui. Mais souvent, les deux frères, il y en a un qui est producteur, ouais. Et l'autre réalisateur, il change
de rôle,
mais non.
Est-ce qu'il y a un grand texte que vous aimeriez adapter?
Oh mon Dieu. Je suis dans une folie. Un truc de 2500 pages qui a pas été fini, que Robert Musil a écrit, L'homme sans qualité, ouais. Voilà.
Et vous essayez de l'adapter?
Non, je suis obsédé par ça, je sais pas ce que ça va donner. Et
ça veut dire quoi obsédé? Ouais. Ça veut dire lire et
ça
relire,
revient sans
ça veut dire
cesse.
En parler à tout le monde, c'est quoi?
Non, quand même pas. Mais ça sauf la radio, mais voilà. ça revient sans cesse. Là, par exemple, je me suis dit, tiens, maintenant, après Serre-moi fort, je vais faire une comédie. Donc, j'ai commencé à regarder les premiers films de Jerry Lewis. J'avais oublié à quel point c'était dément.
Serre-moi fort étant votre dernier film qui est sorti en début septembre.
Le 8 septembre, là. Mais il joue encore. Et puis, Jerry Lewis m'a ramené au côté comique de Robert Musil. C'est bizarre. Hein, voilà.
Autre question, on va parler de Daniel Craig. Quel est son nouveau point commun entre le personnage, James Bond, et lui?
Chômeur.
Non,
non,
justement,
il est riche.
Justement.
Riche, au contraire.
Pas chômeur, une nouvelle mission lui est confiée.
Ah.
C'est pas...
Humanitaire?
Environnement.
Non, pas humanitaire.
De tuer quel nouveau rôle?
Point commun avec James Bond et Daniel Craig, ils se réunissent finalement.
Ils ont une voiture électrique.
Non.
Est-ce que c'est un truc avec l'État? Zoé.
Pas loin, comme 007 Daniel Craig et
immatriculé. Ah, chevalier. Enfin, il est couronné. Oh. Il est
commandant honoraire de la Royal Navy.
Ah, carrément.
Et ouais. Donc là, on s'inquiétait pour Daniel Craig.
À quoi ça sert?
Et ben, il va contribuer à faire la promotion dans le monde de la marine britannique.
De l'armée.
De la marine britannique.
Engagez-vous.
C'est ça. Et la marine britannique, tu sais ce qu'elle te dit?
Finalement, il assure la sécurité de la Grande-Bretagne dans ses films. Voilà. Et bien, il va le faire avec la Royal Navy en parlant, justement, en allant incarner à certaines occasions, j'imagine, l'image de la Grande-Bretagne.
Ambassadeur. Il est parrain de la marine.
Il est une sorte de commandant honoraire. Commandant honoraire. Est-ce que vous êtes...
Est-ce que vous aimez
vous
la guerre?
Commandant honoraire,
est-ce que vous
Mathieu
êtes, est-ce que vous êtes décoré de la
marine? Oui, on reçoit des trucs qu'on n'a même pas demandé, qu'on savait pas.
Chevalier des arts et lettres.
Ces machins-là, ouais.
Vous aimez ça, les honneurs?
D'être chez vous, là, oui.
Ça, c'est pas vraiment un honneur.
C'est quand même fou.
Chevalier des arts et lettres, quoi, la Légion d'honneur?
Non, 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 non. Non, mais c'est des choses que vous ne demandez même pas.
Bah oui. J'entends.
Et vous les recevez par la poste.
Mais est-ce que ça vous fait plaisir?
Ça, non, ça n'a pas grand sens, non, pour moi. Non, non.
Mais ça peut l'être aux yeux de vos parents.
Par contre, quelque chose... ce qui s'était passé à Cannes, ça, je n'oublierai jamais, oui, la mise en scène. Le prix de la mise en scène.
Le prix de la mise
en scène. Ah oui.
Ouais.
Ah oui.
Ça, c'est un honneur. Ouais, ça
m'a beaucoup touché.
C'est plus important qu'un César?
Ah non, 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 le non. César, c'était quelque chose, à chaque fois. Bien sûr, bien sûr.
Parlons de The Artist. France Inter et France 2 sont partenaires et ce sont des auteurs, compositeurs, interprètes qui créent de nouvelles chansons et qui les proposent dans cette compétition. Ça sera vendredi soir en direct à 22h40 sur France 2 et tous les soirs à 20h sur le canal 14 de la TNT. Leïla, tu présentes les masterclass et qui as-tu reçu?
Et hier soir, j'étais avec Patrick Bruel qui nous a parlé de ses influences artistiques, de ses racines musicales. Et chez lui, il y a un mot qui revient souvent, c'est maman.
Ce qui a été fondateur pour moi, c'est d'écouter, c'est d'avoir la chance d'avoir une maman qui avait des goûts très éclectiques et qui m'a emmené sur des terrains très, très différents et qui a éveillé chez moi finalement ce qui est peut-être ma principale qualité et qui peut-être est importante, c'est la curiosité.
Cette curiosité dont il parlait, c'est aussi ce regard un peu décalé, peut-être comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Mathieu, chez les amis, des personnes qui vous amènent à voir les choses autrement. Et pour lui, c'est ça la qualité d'un artiste aujourd'hui.
Le plus important, c'est votre point de vue. C'est que vous soyez chanteur, que vous soyez acteur, que vous soyez metteur en scène, que vous soyez, c'est votre point de vue. C'est comment vous allez décrire la scène qu'on est en train de vivre. Vous allez la cadrer d'ici. Un autre va dire, bah non, moi je préfère la cadrer comme ça, mm-hmm. ou je préfère en gros plan, ou préfère en plan plus serré. C'est votre vérité. Et une chanson, c'est pour ça. 90% des chansons sont des chansons d'amour. Si on se disait, on va arrêter d'écrire des chansons parce qu'on a tout a été dit, bah non. Tout a peut-être été dit, mais pas de la même façon et pas par les mêmes personnes.
Oui, il y a autant de points de vue que d'artistes.
C'est
le propos de réunir ces jeunes artistes pour qu'ils entendent non pas les conseils, mais l'expérience et la transmission que
de ces
d'autres
mentors.
Peuvent apporter.
Absolument. Ouais. Et se forger son point de vue, avoir son regard sur le monde. Dans les émissions de télévision, on propose rarement ça aux artistes. On leur propose souvent de faire des reprises, d'interpréter à leur manière. Et Patrick se réjouit plutôt pour The Artist.
C'est super. Mais ça peut pas être une fin en soi parce que tant qu'on n'entend pas votre créativité, chanter bien les chansons des autres ou faire bien, être des grands interprètes, bien sûr, mais à un moment donné, votre identité passera par ce que vous créez, par ce que vous écrivez. Donc ça serait bien qu'un jour, une émission vous propose de faire vos propres chansons.
Ça tombe bien.
Visiblement, c'est chose faite, et ça, je trouve que c'est superbe.
C'est bien, il a compris.
Il a réexpliqué pour être bien sûr.
Il a fait une
petite demi-heure,
d'être
un bon endroit.
Non,
il est
gentil.
Non.
Très occupé.
Et puis surtout, il a répondu comme ça, d'un coup, d'un seul, à la proposition de Claire de juste chanter. C'était pas du tout prévu.
On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir.
Oui, coupe, parce qu'après on se met tous à chanter, ça va être moins bon.
Ah ouais.
Il nous a dit allez, on est parti.
Bah oui, non, mais c'est
super.
C'est une chanson, une nouvelle chanson, c'est une création, c'est un risque, c'est une écriture. Oui, il y a un moment où elle a été nouvelle. Et après, le plaisir, c'est le partage, c'est quand elle n'appartient plus à l'artiste en question et que tout le monde se l'approprie. The Artist, c'est à 20h les masterclass présentées par Leila Kadourbaudadi. Ce soir, ça sera
Suzanne.
Et ensuite, la compétition reprendra avec 6 artistes qui viendront vous proposer à 22h40 sur France 2, donc, leur nouvelle chanson.
Il y aura combien d'abattus ?
Et il restera 3 sur 6.
Et c'est vendredi.
3 restent, 3 s'en vont.
L'abattoir.
Et la finale sera le 15 octobre prochain. Et puis parmi les invités qui seront présents vendredi soir et qui partageront d'ailleurs la scène, il y aura Élodie Frégé, Benabar, Claudio Capéo et Texas, avec lesquels les jeunes artistes pourront chanter. Bon, la chanson évidemment est à l'honneur dans Tralala, mais pas uniquement dans votre carrière. Mathieu Amalric, on parle d'Oxygène également. Ce film, vous l'avez déjà tourné ou pas?
Oxygène,
oui.
C'est je fais une voix d'une machine.
D'accord.
C'est Mélanie Laurent. Il est sur Netflix depuis
quelques
longtemps.
Semaines. Ouais.
Ah d'accord, j'ai pas vu. Mmh.
Oui, c'est juste une voix d'ordinateur et ça joue avec le côté absolument rassurant.
Nagui, vous êtes un peu le Patrick Bruel en fait du cinéma, quoi. Découvrez en fait des trucs qui sont sortis.
Mais non, j'avoue que ça fait un certain temps que je
parle. Elle est enfermée dans une sorte de cabine. Le plan d'ouverture est assez flippant.
On ne sait pas où elle est.
On ne sait pas, c'est flippant. Ouais.
Et elle ne peut communiquer qu'avec une machine.
Et French Dispatch, ça sera.
C'est sorti en 84.
27 octobre prochain. Wes Anderson.
Oui. Oui.
C'est comment travailler avec des noms comme ça, parce qu'on ne sait pas qui ils sont, nous, on donne leur
nom.
Alors
derrière des noms, il y a vraiment
des êtres humains,
des personnes. Ouais. Il arrive à mélanger une méticulosité incroyable qu'on voit dans ses plans et une sauvagerie absolument extrême. Mmh. Donc il va vider tout un magasin de pellicules, parce qu'il tourne en pellicule, et te faire refaire 15 fois. Tu places les accessoires entre les prises sans que la caméra s'arrête, hein, alors que c'est de la pellicule.
Ah ouais.
Et il te parle en même temps pour que tu ailles de plus en plus vite, de plus en plus vite. Donc tu arrives à une espèce de surchauffe qui amène... je pense la vibration qu'il y a dans les films qui semblent si construits de Wes et qui pourtant à un moment tu pleures, tu sais pas pourquoi.
Se retrouver dans un James Bond, se retrouver devant la caméra de Wes Anderson, de Spielberg.
Et maintenant chez Nagui.
Tout. Ouais, quelle chute. mais croiser ces grands noms du cinéma. C'est une source d'inspiration aussi leur manière de travailler.
Oui, oui, oui. J'y pense pas tous les matins. Hein.
C'est une chance. Qui est le résultat de tout votre travail et de votre talent, mais vous êtes conscient de ces moments magiques.
Je les goûte totalement et je peux le vivre avec les frères Larrieux, avec Arnaud Desplechin, avec des personnes de filmer Nicolas Bouchot, théâtre.
Avec Harpo Hélény Guilt aussi, vous allez tourner Fils de Plouc, ou c'est déjà fait?
Ah non, ça c'est deux tout jeunes qui font des trucs super sur YouTube et ils m'ont demandé de venir une nuit à Bruxelles. Ils vivent en Belgique.
Pour faire leur film.
Je fais juste un mec qui passe dans la nuit comme ça, parce que j'aimais bien ces deux jeunes.
Clémentine Serrier vous a demandé aussi.
Pareil. J'ai toujours aimé Clémentine Sellarié.
On vous demande, vous dites oui, en fait. Vous êtes plutôt souple comme garçon.
Non, mais Clémentine Sellarié, voilà.
Ok, non, mais je suis d'accord, j'adore Clémentine aussi.
Et je la connaissais pas. Et pareil, ça s'est fait deux jours avant, parce que Dylan, le premier assistant, était sur mon film. Et puis, j'ai pris la voiture, je suis allé vers Aritreta, et puis j'ai dansé avec elle.
Ah, bien. Un
amour, un ancien amour de sa vie. J'avais pas une phrase à apprendre. Juste, je dansais avec elle.
One came be back from the darkness, it was seen.
Mathieu Amalric chante, danse et joue dans le dernier film des frères Larieux qui s'appelle Tralala, des excuses après, et qui est au cinéma aujourd'hui. Des excuses à présenter, Daniel.
Déjà désolé pour notre invité Mathieu Amalric, que Nagui a reçu de nombreuses fois à ce micro, mais qui n'a jamais été invité dans Taratata. Alors, Nagui à la pause m'a confié qu'après vous avoir vu et surtout entendu dans Tralala, se dit encore plus motivé à ne jamais, mais jamais, jamais vous inviter dans Taratata. Désolé encore une fois pour notre invité Mathieu qui, après avoir fait très tard hier l'émission de Laurent Goumard tôt ce matin à la matinale de France Musique, ils viennent s'enquiller la bande originale et mon pauvre, c'est pas fini, à venir pour vous remercier Sybille Veil, la présidente de Radio France, casse la tirelire, attention, elle vous invite à la cantine, menu gourmet, entrée, plat, dessert, infirmerie. Désolé pour tous nos auditeurs qui croient avoir une vie de merde, eh ben non, bande de losers, Mathieu Amalric l'a dit, on a tous des vies shakespeariennes. Ta mère n'aime pas ton mec, c'est pas la loose, c'est Roméo et Juliette. Tu es tout seul, ton seul ami c'est un crâne de squelette, c'est pas la loose, c'est Hamlet. Positivez, bande de cons. Désolé enfin pour nos auditeurs qui ont regretté l'humour, la légèreté de l'émission de ce matin. Et ils m'ont appelé pour me dire qu'ils préféraient l'ambiance feutrée de notre spécial femme afghane d'hier. Alors je vous rassure, on replonge dans le glauque dès demain avec Zabou Bretman.
Oui.
Au programme féminisme et alcool fort. Bonne humeur interdite.
Avec Dorothy, Zabou sera notre invité, Zabou Bretman demain. Merci Mathieu Amalric.
Non, merci à vous.
Merci pour
un plaisir à chaque fois.
Tout le bonheur qui sort dans votre regard, votre sourire, votre joie de vivre et d'être qui vous avez envie d'être devant tous ces personnages, tous ces rôles et tout ce que vous projetez de faire encore. Donc vous reviendrez nous parler de ces autres projets. Vous êtes toujours le bienvenu en tout cas.
Dormez là.
Bonne journée. Voici les campagnes de Philippe.
À demain.